Dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier, plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Notre invité du jour, Francis Rousset, pour les agents généraux d'assurance. Vous avez eu un sinistre récemment avec votre véhicule, au niveau de votre habitation, ou bien vous avez un litige en cours, un doute sur l'un de vos contrats, y compris un contrat d'assurance vie, ou toute autre question, Francis Rousset échange, vous répond en direct et c'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Bonjour Francis.
Bonjour Jeanne.
Ça va bien?
Très bien.
Eh ben, on va commencer. Vous allez nous expliquer, parce que je vous le disais tout à l'heure, j'ai reçu le mail hier, mais j'ai pas tout suivi. Le 11 avril dernier, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi PACTE qui prévoit la possibilité d'une transférabilité interne des contrats d'assurance vie. Kezako.
Alors, Kezako, c'est un, la loi PACTE est très vaste.
Elle touche
l'assurance vie, elle touche l'assurance retraite. Dans ce que vous évoquez, les contrats d'assurance vie, vous pouvez avoir auprès d'un même assureur ou d'un même banquier plusieurs contrats d'assurance vie. Qu'est-ce que dit la loi PACTE? En fait, elle dit qu'au sein du même assureur ou du même banquier, vous allez pouvoir, si vous avez plusieurs contrats d'assurance vie, vous pourrez faire fusionner l'ensemble de ces contrats en un seul, sans qu'il vous y ait de pénalité. Aujourd'hui, chaque contrat d'assurance vie est un contrat, donc avec ses propres règles, son propre fonctionnement. La fiscalité, non, parce que la fiscalité est commune à tous les contrats d'assurance vie. Il peut y avoir une durée terme sur un contrat d'assurance vie. Il y en a certains, ils sont à durée viagère, et d'autres peuvent avoir une durée terme. Au terme de ce contrat, que faites-vous normalement? Eh bien, vous devez repartir sur un nouveau contrat avec éventuellement une nouvelle fiscalité, et ainsi de suite. Là, ce que dit la loi, c'est que vous avez plusieurs contrats d'assurance vie. Vous avez par simplicité, ou parce que les contrats d'assurance vie que vous avez ne répondent plus à vos besoins, vous avez envie d'en avoir plus qu'un seul, pour une question de gestion aussi, pour une question malade, diverse, eh bien vous pouvez rassembler l'ensemble de ces contrats en un seul, sans que vous soyez pénalisé fiscalement ou vous ayez une pénalité fiscale.
Voilà. D'accord. Bon, ça sera à suivre.
On va certainement, dans toute loi, après elle doit être étudiée, voilà, il va y avoir d'autres, bien des évolutions. Et dans cette loi PACTE, il y a une autre loi qui est intéressante pour nos auditeurs, c'est que certains peuvent avoir auprès de leur employeur des plans d'épargne collectif, des plans d'épargne retraite collectif, ce qu'on appelle les PEE, les PEI, ou les PERCO-E ou les PERCO-I, c'est au sein des entreprises, c'est-à-dire que c'est de l'assurance-vie au sein des entreprises.
D'accord.
C'est là où on peut mettre de l'intéressement et de l'abondement. Eh bien, la loi PACTE dit aussi que si vous avez individuellement un contrat de type assurance-vie, justement dans ce qu'on disait auprès d'un assureur, d'un banquier, ou un contrat, ce qu'on appelle PERP, un plan d'épargne retraite, donc vous pourrez transférer de votre contrat retraite PERCO-E, PERCO-I qui est dans l'entreprise, vous pourrez le transférer vers un autre contrat retraite.
D'accord.
Et vous pourrez faire pareil sur le contrat d'assurance-vie. Ce contrat d'assurance-vie qui est au sein de l'entreprise, vous pourrez le transférer vers un autre contrat d'assurance-vie. Et vous ne serez pas pénalisé. C'est vraiment de la transférabilité. C'est pas un rachat avec tout ce que ça comporte, les problèmes de fiscalité, etc. Normalement, le contrat retraite, il doit se dénouer au moment de sa retraite. Et maintenant, la loi permet justement pour aussi, je pense que c'est une bonne chose pour des facilités de gestion, ces contrats retraite, pour éviter d'avoir, je vais exagérer, mais si vous avez 4 contrats retraite, ça veut dire que vous allez avoir sur votre, vous allez avoir 4 petites mensualités ou 4 petites, 4 rentes trimestrielles. Ça peut être compliqué, fastidieux, c'est onéreux pour celui qui va gérer tout ça. Eh bien, vous pourrez, au moment de la retraite ou avant, tout fusionner en un seul contrat et avoir une seule rente.
Et si d'ores et déjà vous souhaitez en savoir plus sur ce point ou sur d'autres points concernant l'assurance, 05 55 52 37 38. Alors nous avons choisi, Francis, de faire en quelque sorte un open bar à toutes les questions. Et je vous propose de commencer par la médiation en assurance, un point que l'on aborde rarement. La médiation en assurance, alors déjà, qui est le médiateur, finalement?
Le médiateur, c'est une personne souvent de l'assurance. Enfin, il peut y avoir plusieurs types de médiateurs, mais c'est une personne qui touche à l'assurance, parce qu'il faut connaître bien évidemment le secteur de l'assurance. Et il est là pour transiger entre la société d'assurance avec qui il litige et l'assuré.
D'accord.
Voilà. On le sollicite auprès de la Fédération française de l'assurance, qui a environ 3 mois pour statuer, pour donner une réponse. Alors les délais sont pas toujours respectés parce que c'est au sein de la Fédération française de l'assurance, le médiateur, ils se réunissent pas tous les jours, donc il peut y avoir ces délais peuvent être rallongés ou raccourcis selon la complexité du dossier, mais c'est une des procédures. Le médiateur, c'est un niveau de procédure lorsqu'il y a une réclamation de la part d'un assuré.
C'est l'assuré donc qui peut saisir le médiateur.
Oui, c'est l'assuré qui saisit le médiateur. Avant la saisie de ce médiateur, il y a toujours la réclamation auprès de son assureur, de son interlocuteur, qui lui va monter au niveau de l'assureur proprement parlé. Si c'est un agent général, donc ça sera au niveau de l'agent général qu'il faudra faire sa réclamation. Cet agent général, s'il ne peut résoudre la réclamation, va inciter son client à faire une réclamation au niveau de la compagnie d'assurance. Cette compagnie d'assurance, si il n'y a pas eu d'entente à ce niveau-là, eh ben il va y avoir une saisie donc du médiateur. Si la saisie du médiateur ne satisfait pas le client, eh bien à ce moment-là, on va dans une procédure judiciaire.
Alors, point important, la procédure judiciaire, faut pas qu'elle soit enclenchée avant de saisir le médiateur.
Non, il faut bien qu'elle
précision
soit...
Précision importante.
Voilà, ouais. Merci Josène, effectivement. Il n'y a
pas de quoi, c'est gratuit, Francis.
Il y a vraiment cette escalade, si on peut dire. C'est 1, votre interlocuteur, 2, la compagnie d'assurance, 3, le médiateur, 4, la procédure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, éviter et aller directement sur une procédure au tribunal. Et peut-être que ça peut solutionner avant. Et donc, il vaut mieux souvent respecter ça. Alors, c'est vrai que je comprends, c'est très long. Moi, je trouve que les délais sont un peu longs. Quand on est en litige, souvent, on a besoin de raccourcir parce qu'on crée un peu plus de tension par ces délais très longs. Voilà, mais il est important de respecter ces procédures.
En sachant, autre point important, que aussi bien du côté de l'assureur que de l'assuré, personne n'est obligé de suivre, on va dire, les recommandations du médiateur.
Non, il n'y a pas d'obligation.
Il va donner un avis.
Il va donner un avis. Après, les parties des autres l'acceptent ou la refusent. Mais voilà, il est là pour donner un avis.
05 55 52 37 38, toutes vos questions ce matin concernant vos assurances. Francis Rousset vous répond en direct. Can't Really Love, Phil Collins.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Un souci ou un autre côté assurance ce matin. Francis Rousset pour les agents généraux d'assurance vous répond en direct. C'est au 05 55 52 37 38 si vous souhaitez poser vos questions ou apporter vos commentaires. Lorsque nous parlions il y a quelques instants, Francis, du médiateur, moi il y a un petit peu quelque chose que je trouve gênant, c'est effectivement le délai que le médiateur a ou n'a pas pour répondre.
Oui, alors là, moi, j'ai pas de prise là-dessus, effectivement.
Ouais. Non, mais c'est simplement un sentiment. Hein,
oui, c'est un sentiment. Alors, souvent, au sein de la Fédération française de l'assurance, des sociétés d'assurance, ils se réunissent pas tous les jours. Et bon, je ne sais pas leur rôle, mais voilà. Après, il peut y avoir beaucoup de dossiers aussi.
Me disais simplement que ça pouvait faire monter encore plus la mayonnaise.
Oui,
quoi.
Moi je le crois aussi, mais voilà, moi c'est mon sentiment en tant qu'assureur local. Je vis des situations parfois où les choses, si elles sont transigées et solutionnées rapidement, c'est mieux.
Tout de suite, nous allons donner la parole à Natacha. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, j'ai une grande fille qui était dans une école de théâtre, qui fait aussi centre de formation sur Lyon, et qui a eu un accident lors d'une scène qu'ils ont joué dans un café-théâtre dans le cadre de sa formation. Un accident conséquent puisqu'elle s'est cassée les deux malléoles et déchiré les ligaments.
Oui.
Elle a eu quatre opérations. Elle est restée allongée deux mois avec des piqûres dans le ventre. Enfin, c'était quelque chose de lourd pour une jeune fille. L'accident, elle l'a eu pendant les répétitions de la scène de la pièce, parce qu'elle est rentrée dans la salle et qu'il pleuvait, que un lino extrêmement usé était déjà bien glissant, et en étant mouillée, sa fille, c'est des fuites qui arrivent en général au ski sur du verglas, donc sa fille est partie sur le côté. Et ça fait deux ans et demi qu'on attend la déclaration d'assurance de l'école qui dit qu'elle peut pas le faire parce que personne n'a poussé ma fille et que du coup ils sont pas responsables et qu'ils vont pas faire de déclaration.
Ouf. Francis,
je
vois votre visage que... Ouf.
Ça me laisse un peu sans voix. Alors effectivement, j'entends souvent les écoles qui... J'ai l'impression que ça a l'air d'être une tendance. Ne pas faire les déclarations. Moi, je pense qu'après, la solution, c'est d'envoyer une lettre recommandée au rectorat. Alors moi, je connais pas encore trop les procédures sur les écoles, mais c'est vrai que c'est une tendance que je vois où les écoles refusent de faire les déclarations auprès
de leur assistant. Pardon, mais c'est pas une école qui dépend du rectorat, c'est une école de théâtre qui est centre de formation, mais qui n'est pas éducation nationale.
D'accord.
Mais quand vous les contactez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que vous les relancez, je suppose.
Ah oui, oui. Au départ, ils disaient qu'ils s'en occupaient. Après, le temps est passé, ils ont dit que leur assurance ne prendrait pas en compte l'accident parce que personne n'avait poussé, qu'elle était tombée toute seule. Nous, on a une assurance garantie de la vie qui nous demande la déclaration de l'école, peu importe qu'il soit responsable ou pas, c'est juste pour avoir quelqu'un en face pour l'expertise. Mmh. Et donc c'est ce qu'on a dit, mais mettez ce que vous voulez, enfin faites-nous juste la déclaration d'accident. Chacun mettra ce qu'il a à écrire et les assurances verront entre elles. Et non, en fait, ils ont fait une déclaration d'assurance à la responsabilité civile du café-théâtre dans lequel les enfants jouent, qui leur appartient aussi, effectivement n'assure pas les élèves et qui a dit qu'il fallait qu'ils fassent une déclaration d'accident à l'école, puisque c'est le centre de formation qui les envoie jouer sur scène.
Les écoles, ce qu'elles comprennent pas, c'est que quand on leur demande qu'elles fassent une déclaration, c'est pas qu'elles reconnaissent une responsabilité, c'est qu'elles, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est ce dont vous avez besoin, c'est qu'on puisse votre assureur, il a besoin de se connaître comment ça s'est passé, où ça s'est déroulé, donc il a besoin à la fois de votre déclaration et de la déclaration de l'école. Donc l'école, souvent, on leur demande que s'est-il passé? Dites-nous, l'enfant un tel a été assez blessé lors d'une activité. on n'est pas là pour dire vous êtes responsable ou pas responsable à l'école. On est là pour dire confirmez-nous que l'enfant un tel s'est bien blessé.
Que ça s'est bien passé là et blessé là.
Voilà, à l'école et non pas peut-être en voiture ou je ne sais où. Donc on leur demande que ça aujourd'hui aux écoles, qu'elles nous fassent bien les déclarations que l'accident s'est produit au sein de leur établissement. Ce n'est pas une présomption de responsabilité, c'est simplement déclarer des faits.
Qu'est-ce qu'elle peut faire, la Natacha, concrètement, pour sortir
Alors déjà, il faut faire absolument, c'est des lettres recommandées avec accusé de réception. Alors je ne connais pas le niveau hiérarchique au sein de cette école de formation, mais il faut aller au plus haut de vos connaissances de cette structure, de la hiérarchie. Et puis après, eh bien, c'est saisir, j'irais soit parfois des associations de consommateurs qui peuvent vous défendre, ou peut-être. Vous avez une garantie protection juridique au sein de vos contrats d'assurance qui peuvent intervenir pour vous sur des procédures.
Oui, alors notre protection juridique a envoyé une lettre recommandée à la gérante, puisque c'est une SARL comme statut, à la gérante de l'école, qui n'a pas répondu, donc il a téléphoné. C'est un juriste qui a pris la peine de téléphoner pour demander la déclaration d'assurance, et la directrice lui a répondu en français dans le texte, non mais vous vous foutez de ma... Voilà. Et ce jour-là, il pleuvait, c'est pour ça que c'était mouillé, c'est pas de notre faute si elle est tombée et s'est fait raccrocher au nez.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils comprennent pas, qu'on leur demande pas si c'est de leur faute ou pas.
C'est ça. C'est bien là le tout problème. Il y a cette incompréhension où c'est seulement une déclaration, c'est pas une ils ont qu'à mettre qu'il pleuvait, c'est peu importe.
Donc là, il faut que ça se joue au niveau des intervenants de la protection juridique de Natacha.
Oui. Mais je vois que même avec
c'est compliqué. Même la protection juridique a fini par les mettre en cause vu que ma fille a un contrat avec eux et qu'ils sont responsables de sa sécurité. Mais ce qui semblerait incroyable, ce serait qu'ils soient pas assurés, quoi.
Ah oui, parce que vous ne savez pas s'ils ont une assurance ou pas finalement.
Ah bah non, on ne sait pas.
Là aussi, on parlait de la notion du médiateur, donc ça peut être une solution puisque
de contacter le médiateur,
de la Fédération française de l'assurance, qui pourra peut-être trouver. Alors le problème, c'est qu'on va rajouter. On parlait des délais. Là, ça va être.
Si c'est l'impasse.
Mais si c'est l'impasse, effectivement,
il faut le tenter au cas où.
Ouais, voilà. Et sinon, malheureusement, vous êtes engagé dans une procédure juridique contre cette école qui va. Voilà, il va falloir.
Ça va être long.
Ça va être long. Et puis, malheureusement, il va falloir faire des avances, sauf si la protection juridique va intervenir. Mais ça peut être long.
Mais cette notion de savoir si l'école, ce centre de formation est assuré, Natacha, ça mérite peut-être d'être gratté, ça, quand même.
Oui, ça mérite d'être vu.
Ils ont une obligation,
Oui, parce que normalement, c'est obligé.
C'est obligatoire, donc ça doit apparaître à un endroit au niveau du contrat qu'elle a passé ou que vous avez passé avec l'école. Oui. Il doit y avoir une mention liée à l'assurance. Donc si vous avez les coordonnées d'assurance, après...
Non, la seule chose qui est dans le contrat, c'est qu'il demande à chaque élève de fournir son attestation de responsabilité civile. Nous, on l'a fourni, il n'y a pas de souci, mais eux, il n'y a aucune information.
Il n'y a aucune information sur le contrat
Non.
Eh ben, saisissez le médiateur, Natacha.
Et pourtant, c'est pas une petite école. Enfin, c'est quand même. C'est pas une petite école. Ils ont même des téléfilms qui passent à la télé par leur fils. Ils s'en servent pour avoir des élèves. Donc c'est fou, quoi.
Direction le médiateur, Natacha.
Eh ben, je vous remercie.
Allez, bon courage à vous.
Bon courage.
Et toujours le 05 55 52 37 38 qui vous accueille. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour messieurs, dames.
Nous vous écoutons.
C'est juste une question. Pourquoi pour les petites voitures, les voiturettes, il n'y a pas de bonus ni de malus? En aidant mon fils, ça fait plus de 10 ans qu'il conduit. Il ne peut pas avoir le permis. Et il paye toujours autant. Pourquoi?
Oui, alors là, je connais pas la raison pour laquelle exactement. Je vais être honnête, je connais pas exactement la raison pour laquelle il y a pas un système de bonus-malus. C'est vrai que ces systèmes de voiturettes ont une législation bien particulière. Le bonus-malus est lié.
Toujours les inconnus qui conduisent ça.
Bah voilà, non, bien sûr que voilà. Il nous disait que ce n'était pas toujours les personnes qui avaient un souci avec l'alcool qui conduisaient des voiturettes. Surtout plus maintenant, hein. Vous avez beaucoup de jeunes qui y vont.
Oui, on a des jeunes qui y vont, qui ont moins de 18 ans même parfois. Et puis on a toutes sortes de situations. Hein. Il peut y avoir des problèmes de vue et donc c'est plus simple. Voilà. Enfin, peu importe, il existe énormément de situations, effectivement. Il n'y a pas de système de bonus-malus sur les voiturettes. Voilà, j'ai pas la réponse là, mais je vais creuser la question et je répondrai à la prochaine émission.
Il y a un assureur qui répond comme vous. Voilà, on ne sait pas.
Eh ben, on va creuser pour vous et dès qu'on a la réponse, on vous la transmet sur l'antenne.
D'accord, ok, je vous remercie.
Bonne journée à vous. Au revoir. Et toujours, France Bleu Creuse vous accueille. Francis Rousset pour les agents généraux d'assurance. Toutes vos questions, il vous répond en direct.
05 55 52 37 38.
J'en ai croisé des vies, j'en ai fait des saisons. J'ai traversé la nuit, j'ai filé mon blouson. Et pourtant, c'était là. J'en ai passé des lunes à questionner demain. J'en ai connu des filles qui n'y comprenaient rien. Et pourtant, c'était là, devant moi. J'avais oublié l'humeur d'un été. Et pourtant, c'est si bon de penser. D'herbe à fumer, quelques amis fidèles, une poignée de projets. Ça me va comme à toi.
Devant Florent Pagny.
Le dossier du jour avec Granit et Margot Mourier, tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Dans une poignée de secondes, suite de notre dossier du jour consacré ce matin aux assurances, pour échanger avec vous, Francis Rousset pour les agents généraux d'assurance. Une question, un souci ou un autre, c'est à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Didier Radicki à Concarneau dans le Finistère nous dit pourquoi.
Écoutez, c'est simple, on est clients depuis plus de 20 ans. Au niveau du choix, ils nous proposent exactement ce dont on a besoin par rapport à la morphologie de notre visage, puis à la couleur de notre peau et de nos cheveux. Il y a un vrai suivi qui existe. Et puis, ils trouvent la bonne adéquation entre le besoin des verres et le type de monture. Ils font mouche à chaque fois.
Christophe Rebert, l'opticien Optique 2000 de Monsieur Radicki à Concarneau.
Pour nous, l'important, c'est de bien accueillir notre client, de définir ensemble ses besoins, lui offrir la meilleure proposition possible, puis qu'il reparte du magasin en voyant clair dans ses lunettes. En plus, comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers pour nos clients.
Alors, Monsieur Radicki, content d'Optique 2000 ?
Ah, complètement. Et en plus, il s'occupe de tout. C'est vraiment pratique.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Savez-vous où l'on affine le roquefort ? Dans le village de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron, un village accroché au flanc de la montagne du Combaloux. C'est ici, et ici seulement, que se trouvent au cœur de la roche les caves d'affinage du Roquefort. Venez les visiter les 8 et 9 juin à l'occasion de l'événement Roquefort, un territoire en fête.
Plus d'informations sur roquefortenfête.fr. Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
La meilleure façon de marcher, c'est Jérémy Chaussures. Ouverture à Guéret. Venez découvrir votre nouveau magasin Jérémy Chaussures. Jérémy, c'est plus de 100 marques de chaussures à tous les prix et des milliers de modèles hommes, femmes, enfants et bébés. Jérémy, des produits de qualité. Notre équipe vous accueillera au 241 rue Alexandre Guillon à Guéret, à côté de Carrefour et Monsieur Bricolage.
France Bleu Creuse.
Notre dossier du jour consacré aux assurances avec pour échanger avec vous Francis Rousset pour les agents généraux d'assurance. Une question ou une autre, 05 55 52 37 38. Nous balayons large ce monde de l'assurance ce matin. Et dites-nous Francis, dans le cas d'une déclaration de sinistre, l'erreur peut-être que nous commettons le plus souvent, ce serait laquelle ?
Dans une déclaration de sinistre, c'est peut-être de ne pas dire ce qui s'est réellement passé. Il faut pas trop en dire, puisque être parfois trop précis, c'est pas forcément une très bonne chose. Il faut faire une déclaration plutôt générale dans un premier temps, et après on peut être amené à vous demander plus de détails. Mmh. Pourquoi ? Parce que quand on est trop précis, les termes employés peuvent modifier les responsabilités. Enfin, c'est parfois un peu. Je prends l'exemple en disant ça. Je prends l'exemple de la déclaration automobile, où on vous demande souvent sur le constat amiable, vous avez deux colonnes et en bas vous avez un schéma. Et sur ce schéma, souvent les personnes font et dessinent avant l'impact, où elles étaient avant l'impact. Donc Elles sont très précises, hein, le détail, il y a tout. Mais elles oublient que ce qui est important, c'est le point d'impact, le choc. Et savoir tout ce qui s'est passé avant, ça n'a en soi pas réellement d'importance. Ce qui est important, c'est sur le schéma qui est placé en bas du constat amiable, c'est de positionner les voitures au moment du choc, et uniquement à ce moment-là. Dans les observations, vous pouvez mettre, effectivement, après ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que dans le schéma, vous pouvez en oublier. Si vous voulez être très précis, mais est-ce que vous avez pensé à indiquer le marquage au sol, tous les feux de signalisation, les autres véhicules qui étaient présents, etc., etc. Souvent, non. On en oublie. En voulant être trop précis, on finit par oublier même des informations. Donc, attention, ne soyons pas trop précis. Mais
n'oublions pas l'essentiel.
Bien sûr, mais c'est mettre la date, ce qui s'est passé, le lieu où ça s'est passé, et vous déclarer les faits de façon circonstanciée, mais de façon simple. Voilà, sans chercher à rentrer trop dans le détail de votre déclaration.
Mais c'est très certainement parce qu'après on a peur que si on oublie par exemple de mettre un point d'impact, que l'assurance se dise après non, c'était pas sur le constat.
Ouais, mais le point d'impact justement, c'est un... Alors l'avantage, j'ai peut-être pas pris le bon exemple avec l'automobile, puisque l'automobile on a un constat amiable déjà qui nous dirige un peu dans notre déclaration et qui nous aide à cette déclaration, nous évitant ainsi d'oublier des choses. Il y a ce que ce schéma, parfois, qui peut être pas assez rempli ou trop complété, et donc il nous met un peu ce qui s'est passé avant, mais pas au moment du choc. Donc ça nous aide pas forcément dans la compréhension du sinistre. Le constat amiable automobile, le constat amiable dégâts des eaux sont deux déclarations où on n'a pas trop de problèmes.
D'accord.
C'est une déclaration, ce qu'on appelle en responsabilité civile, ce qui s'est passé avec la dame, avec Natacha tout à l'heure, où on est sur une déclaration sur papier libre, et c'est là où c'est parfois compliqué de bien expliquer et de bien être compris par les uns et par les autres, et ne rien oublier, donc les faits, les personnes impliquées, la date, le lieu. Voilà, c'est globalement les choses qu'il faut faire apparaître.
En sachant qu'un constat, dans le cadre d'un sinistre automobile, il se fait à l'instant T, ce constat.
Oui, il doit se faire.
Il ne se fait pas le lendemain ou deux jours après.
Non, il se fait à l'instant T, sur le lieu de l'accident.
D'accord.
Voilà.
Donc si sur le coup on dit, je suis désolé, j'ai pas le temps de faire le constat, on prend rendez-vous pour demain.
Je le déconseille.
L'autre partie peut accepter ou refuser.
Bon, elle peut accepter. Après, c'est un constat amiable, donc voilà.
Mais elle peut refuser également.
Elle peut refuser, bien sûr. Il y a eu un accident. On doit faire les constatations d'usage sur place, parce qu'il peut y avoir des photos de prise aussi pour agrémenter la déclaration. Rendre conforme la déclaration avec les photos. Enfin voilà. Donc il y a plein de choses qui font que. Et puis. Sur les points d'impact, si vous le faites le lendemain ou trois jours après, est-ce que la personne, est-ce que le véhicule n'aura pas été entre-temps encore accidenté ou autre ? Donc attention à tout ça. Donc il est important de faire sa déclaration à l'instant T.
05 55 52 37 38, il vous reste quelques minutes pour poser votre question.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. En
la pesanteur qu'à l'Ugiro.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Les dernières minutes pour aujourd'hui en compagnie de notre invité Francis Rousset pour les agents généraux d'assurance. Nous avons balayé très large depuis ce matin 9h et il y a un autre point que je souhaitais aborder, Francis. Ce sont les expertises. Une expertise, déjà, c'est obligatoire ou pas?
Alors, ça dépend dans quel domaine vous parlez. Si c'est
prenons le domaine commun des automobiles.
Des automobiles. Alors oui, l'expertise est obligatoire. Alors, ça peut varier selon les assureurs. Je connais pas là l'ensemble du fonctionnement des mutuelles ou des assureurs, mais globalement, il y a une expertise qu'on appelle au premier euro. Sauf la seule cas où il n'y a pas d'expertise dans l'ensemble de l'assurance, à ma connaissance, c'est sur les bris de glace.
D'accord.
Donc si on a un bris de glace, on fait simplement une déclaration à son assureur et puis il y a une prise en charge de sa part.
Alors le but de cette expertise, c'est que l'assureur soit assuré, c'est le cas de le dire, de ne payer que les dégâts qui sont bien réels, parce qu'on pourrait se dire aussi, ben on fait confiance au mécanicien, au carrossier qui sait aussi finalement évaluer les dégâts, non?
Ah oui, le mécanicien, il a parfaitement cette compétence à évaluer le montant de la réparation. Il le fait souvent d'ailleurs, donc il y a aujourd'hui expertise, mais pour éviter certainement les abus ou et puis parce que est-ce que le garagiste connaît tous les véhicules, je ne sais pas, mais bon voilà. En tout cas, il y a effectivement expertise, donc c'est un professionnel de l'automobile qui vient vérifier l'état du véhicule et qui vient souvent nous on aime bien que les expertises se fassent dans un garage.
Mmh. Comme beaucoup d'assureurs,
voilà,
d'ailleurs.
Ouais. Pourquoi en fait, mais vous auriez le droit de le faire chez vous, hein, l'expertise elle a le droit, vous avez le droit de le faire à votre domicile. Pourquoi nous on préfère, parce que de toute façon il y a des fortes chances que le véhicule soit réparé dans un garage et que donc il est bon que le garagiste et l'expert se mettent d'accord sur les réparations à faire et sur le montant à prendre en charge.
Et le client, on lui demande son avis quand, Francis?
Alors, sur les expertises automobiles, c'est vrai que, que le client, on le prend pas toujours en considération. On va le prendre surtout en considération s'il y a cette notion de limite de valeur vénale du véhicule par rapport à la valeur des réparations.
Ah, vous allez nous la refaire, celle-là?
C'est-à-dire que si vous avez un accident, est-ce que le coût des réparations est supérieur à la valeur de votre voiture? Si le coût des réparations est supérieur à la valeur de votre voiture, ça veut dire que votre véhicule va être déclaré en épave. Donc là, en principe, l'expert ou l'assureur prennent contact avec vous pour vous présenter un petit peu comment ça peut se passer, et puis demander tous les justificatifs d'entretien de votre véhicule qui peut réévaluer la valeur de votre voiture pour éviter qu'elle soit déclarée en épave.
Alors, qui prévient l'assuré du résultat de l'expertise? Parce qu'il en est un peu exclu de l'expertise au départ.
Oui, c'est souvent à l'assureur de faire cette démarche auprès de son assuré.
Voilà. Et si on n'est vraiment pas d'accord avec cette expertise?
Alors, c'est exactement comme dans beaucoup de domaines. L'expert a été mandaté par l'assureur. Vous avez le droit de mandater, vous, votre propre expert. Si les deux experts ne sont pas d'accord, un troisième expert juridique va être mandaté, auquel cas, si vous n'êtes pas encore pas d'accord avec la décision de cet expert juridique, on entame une procédure.
D'accord, et au final, qui est-ce qui paie?
Alors, ça va dépendre des contrats d'assurance. Ouais. Souvent, l'expert d'assuré va être pris en charge par son assurance, mais ça, c'est à vérifier dans chacun des contrats. L'expert juridique qui va être pris, ça sera pour moitié. Et puis après, si on est dans une procédure, c'est chacun pour soi.
Voilà, c'est la fête. Francis Rousset,
en automobile, on arrive. Enfin, moi, j'ai moins de situations de ce type. Souvent, avec l'expert, on arrive à discuter. Le gros problème, c'est souvent l'évaluation des réparations. Aujourd'hui, on est sur le problème des pièces d'occasion.
Oui,
on
tout
est
en train à de fait. Voir. On aura l'occasion d'y revenir,
voilà,
d'ailleurs.
Ouais, c'est un grand sujet. Tout ça a été fait pour abaisser le coût des réparations et in fine, normalement, le coût de l'assurance. Mais voilà, c'est sur ces évaluations de véhicules épaves qui peut poser problème. Sinon, globalement, moi, je trouve que sur le nombre d'accidents et d'expertises qu'il y a, globalement, on va être plutôt positif. Mais je sais bien qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui me diront « Oui, mais moi, je suis d'accord. »
Francis, à très bientôt.
À très bientôt, Josiane, merci.
France Bleu Creuse. France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Comme la semaine prochaine, je suis obligée de partir en vacances, bien sûr je plaisante, c'est Gaëtan Spagnol qui vous accompagnera toute la semaine prochaine. Et lundi, Gaëtan accueillera quelqu'un que vous connaissez déjà bien dans La Vie en Bleu sur France Bleu Creuse. Il aura pour invité Aïda Masso et son jardin de plantes aromatiques et médicinales. Aïda, vous l'aurez donc plus longuement avec vous et vous pourrez lui poser toutes les questions sur les bienfaits des plantes médicinales.